Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Et bonsoir surtout à vous, Harold Cobert, d'être venu nous rendre une petite visite chez Mola à Bordeaux. Donc, nous venons ici pour parler de votre quatrième ouvrage, Dieu surfe au Pays Basque. Alors, pour résumer un petit peu l'histoire pour les personnes qui ne l'auraient pas lu, donc il s'agit d'un roman, c'est l'histoire d'un couple qui apprennent l'heureuse nouvelle qu'ils vont avoir un bébé, la femme est enceinte, mais qui malheureusement ça finit un peu tragiquement puisqu'il y a des complications, ce qui fait que la jeune femme doit aller à l'hôpital pour malheureusement se faire avorter en fait à cause de gros problèmes. Et donc c'est l'histoire en fait d'un petit peu de comment ce couple va réagir face à ça. Je me trompe pas?
Non, pas du tout. Effectivement, c'est l'histoire de l'argument en tout cas tourne autour d'un événement qu'on appelle communément la fausse couche.
La fausse couche.
Et les fausses couches dites précoces qui sont celles avant 3 mois.
D'accord, très bien. Alors déjà, pour commencer un petit peu, enfin il y a, je pense, une question qui doit un peu interloquer tout le monde, au vu du sujet, et alors que le titre s'appelle quand même « Dieu surfe au Pays Basque ». Alors, on en a déjà parlé.
Ce qui est vrai, c'est un titre un petit peu étrange comme ça.
Donc bon, on en a un peu parlé hier, donc désolé, ça va faire une petite redite pour vous, mais est-ce que vous pourriez quand même expliquer un peu à tout le monde pourquoi le choix de ce titre ?
Alors, pourquoi le choix de ce titre ? Parce qu'effectivement, le roman est construit sur plusieurs temporalités. La temporalité présente, c'est effectivement, on suit jour par jour et quasiment heure par heure l'événement dramatique qui est cette fausse couche auquel le narrateur et sa femme sont donc confrontés. Et en alternance, il y a le moment où le narrateur et sa femme se sont rencontrés au Pays Basque. Le narrateur a des origines basques, il est donc surfeur. Et au moment précisément où il traverse cette épreuve avec sa femme, il a l'impression que Dieu les a abandonnés et qu'il s'est tiré surfer avec ses potes au Pays Basque et qu'il les laisse complètement, et qu'il les laisse eux et le monde courir à leur perte.
Oui, vous avez d'ailleurs, je me permets de vous citer, « La poisse, la chance, le hasard, les signes, le destin, Jéhovah, Dieu, Allah, tralala, youpi. »
Oui, tous.
Voilà, je m'en fous. Tout ça, c'est des conneries. Ils se sont tous barrés surfer au Pays Basque et laissent le monde courir à sa perte. Mais justement, mais pourquoi le Pays Basque, en fait ? Pourquoi avoir transposé cette histoire au Pays Basque ?
Ah, mais sinon, où aller ? Le Pays Basque, en tout cas, par rapport au surf, est la Mecque française du surf, en tous les cas. Il n'y a que là-bas que l'on surfe. Et puis, comme ce livre est très peu autobiographique, c'est-à-dire 98% à peu près, la rencontre entre ma femme et moi s'étant déroulée là-bas, je l'ai très facilement placé au Pays Basque lui-même.
D'accord, c'était un peu une sorte de signe pour votre femme, un peu un petit geste à travers ce roman.
Oui.
Alors, je voudrais revenir un petit peu sur vos précédents ouvrages, donc qui avaient pour thème qui avaient différents thèmes quand même, puisqu'il y avait donc dans le premier le reniement de Patrick Trebok, un peu une télé-réalité qui se passe en prison.
Oui. Je rigole dès que je pense à ce livre, excusez-moi, ça me fait toujours rire.
Livre, tant mieux.
Fait toujours rire.
Il y avait ensuite Un hiver avec Baudelaire, donc là c'est un SDF qui fait un petit peu la rencontre d'un chien et qui s'appelle Baudelaire d'ailleurs, c'est marrant.
Ouais, on suit le parcours d'un homme qui va devenir SDF et tout le processus qui fait qu'un homme perd tout et il va être rattrapé in extremis par un chien errant qui est un chien qui est un peu la mascotte d'un quartier près de Montparnasse où est enterré le vrai poète Baudelaire et qui, par un vendeur de kebab, est surnommé Baudelaire en référence à un petit poème en prose qui s'appelle Les bons chiens.
D'accord.
D'où l'hiver avec Baudelaire, puisque la rencontre entre cet homme et ce chien va durer le temps d'un hiver.
D'accord, très bien. Et donc, après le troisième ouvrage là, qui vient de sortir en poche, qui avant s'appelait L'entrevue de Saint-Cloud et qui maintenant a changé de titre pour Le rendez-vous manqué de Marie-Antoinette, qui a reçu d'ailleurs le prix du style 2010. Là, vous changez vraiment complètement de thème pour rentrer dans l'histoire, quelque chose d'un peu plus sérieux, entre guillemets. Comment ça se fait que...
Pourquoi vous trouvez que c'est plus sérieux ? C'est parce qu'il y a des bas de soie, des perruques ? Non, 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 non. Mais La question, c'est qu'est-ce qui relie tous ces livres, au fond ?
Mais,
ou pas ? Je me demande, parce qu'effectivement, on peut avoir l'impression que je passe du coq à l'âne en permanence.
Voilà, c'était un petit peu la nature de ma question. À travers, en fait, tous ces thèmes, comment vous en êtes venu à vouloir aborder le thème de la fausse couche ?
Alors, bon, ça va être une réponse un peu longue, je vous demande un peu de patience. Alors, en fait, j'ai découvert en fait quel était le lien entre tous ces livres quand j'ai préparé ce qu'on fait dans l'édition qui s'appelle La Réunion avec les représentants. Je vous explique, c'est-à-dire qu'avant chaque sortie de livre, on rencontre les représentants du groupe Interforum, qui sont tous les commerciaux qui vont aller en France et proposer aux libraires de prendre un livre, deux livres, trois livres, etc. Et on passe à la suite comme ça, on a cinq minutes. Pendant trois jours, ils voient des écrivains qui viennent et qui disent voilà, etc. Et pour une fois, j'avais vraiment préparé cette réunion parce que ce livre-là est un livre qui me tient tout particulièrement à cœur et je m'étais dit qu'est-ce qui lie effectivement tous ces romans. Donc dans le premier, Patrick Trebok est un trentenaire. Il y a une tranche de trentenaires qui maintenant approche plutôt d'ailleurs de la quarantaine comme moi, qui sont nés grosso modo entre les années 70 et les années 1977 et où moi j'ai l'impression que cette génération-là, elle ressemble un peu à la génération de Musset, c'est-à-dire qu'ils ont été élevés dans des grands idéaux communautaires comme... Musset avait été élevé dans cette espèce de culte de la bravoure napoléonienne, de l'honneur guerrier, etc. Il se retrouve dans un monde où ses valeurs n'ont absolument plus cours. Et cette génération-là, elle a du mal à trouver sa place, c'est-à-dire que la génération des 68ards met beaucoup de temps à partir, donc eux vivent que de petits boulots précaires. Et bizarrement, la génération Y, dont on parle beaucoup en ce moment, puisqu'il y a un très bon ouvrage qui a été consacré à eux, c'est eux qui prennent toutes les places. Et c'est un peu c'est le ventre mou historique, c'est-à-dire ceux qui sont là trop tôt, puisqu'ils ne peuvent pas trouver une place, et qui sont là trop tard, parce que ce sont ceux qui sont plus jeunes qu'eux qui vont la prendre pour eux. C'est un peu une sorte de génération bâillonnée. Et donc j'avais envie de leur donner la parole, en fait. Dans Un hiver avec Baudelaire, l'idée, c'est que, précisément, les SDF, ce sont ceux qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre et qu'on ne veut pas écouter, surtout. Donc je voulais leur donner la parole aussi. Mirabeau, qui est un personnage absolument extraordinaire, qui, pour des raisons qui seraient trop longues, parce que sinon on pourrait faire toute une conférence sur lui, a été bafoué par l'histoire de France. On ne lui a pas reconnu la vraie place à laquelle il a droit. J'ai voulu être son porte-voix à travers le fleuve historique qui fait qu'on l'a fait taire. Et là, même chose, dans l'événement qu'est la fausse couche, on s'intéresse généralement, et c'est normal, à la femme. Parce qu'elle est le sujet, l'objet, le complément et le théâtre du drame qui se joue. Mais à côté, il y a cet angle mort, le père, qu'on ne voit pas souvent d'ailleurs, et à qui on ne donne pas la parole aussi. Donc finalement, je me rends compte que j'ai une sorte d'obsession qui se dégage malgré les habillages qui sont différents, qui est de donner la parole, en tout cas d'exprimer une parole qui n'a pas été dite ou qui n'a pas été entendue. D'accord. Voilà à peu près pour avoir le continuum. Et pourquoi donc s'intéresser à ce sujet-là ? Donc certes, moi j'ai traversé cette épreuve-là aussi, mais ce qui m'a donné envie de le faire, c'est qu'en en parlant autour de moi, les langues se sont déliées. Les langues des femmes, ce sont des choses dont on ne parle pas. C'est un peu des vieux secrets de famille ou certaines cicatrices que l'on garde. Et je me suis dit que d'abord, beaucoup de femmes traversent cette expérience-là. Je crois qu'à peu près 15% des grossesses aujourd'hui ne vont pas à terme et que globalement, on pourrait presque dire que deux femmes sur trois font au moins une fausse couche dans leur vie. Et je me suis dit qu'il y avait un sujet sur lequel la littérature ne s'arrêtait absolument pas, puisque la littérature, quand elle aborde le problème de la parentalité... Salut ! Quand la littérature aborde ce thème-là, elle le fait souvent plutôt soit dans la difficulté à concevoir un enfant ou dans le chemin de croix qui est l'adoption, ou plus tard, dans le deuil d'un enfant qui meurt mais qui lui est né. Mais jamais on ne s'intéresse à la problématique de l'enfant qui est à naître et qui ne naît pas. Et encore moins, voire jamais, me semble-t-il, du point de vue de l'homme, précisément. D'où l'envie d'avoir voulu aller dans ce terrain un peu obscur, dans une sorte de terre inconnue.
Très bien. Est-ce que c'était une sorte en fait de thérapie pour vous, puisque ça
Ah non, il y a des psychiatres pour ça, ça marche très bien. j'y suis passé, c'était pas exactement, ça s'appelle de l'EMDR, mais bon. Non, moi, l'écriture cathartique, enfin mes propres névroses, à mon sens, n'ont pas à être couchées sur le papier. Mais en revanche, ce qui m'a intéressé, c'était d'essayer donc d'inspecter cela et pour une fois d'essayer de faire quelque chose. Alors je vais enfoncer une porte ouverte qui est d'une banalité affligeante, qui est que peut-être parfois, quand on est au plus proche de ce qui est, de ce qui nous est le plus intime, on est le plus proche de l'intimité des autres, donc de quelque chose d'universel. Et c'était ça que je voulais essayer d'aller essayer de toucher, en tous les cas. Mais non, l'écriture cathartique, non, je laisse ça aux journaux intimes. Et, ma propre vie ne regarde personne globalement, je crois. Et puis elle est inintéressante en soi, ce qui est vrai.
Oui, vous débouchez un peu sur une de mes questions. C'était de savoir, en fait, c'était pas, est-ce que c'était ou non un défi pour vous de parler de la fausse couche à travers les yeux d'un homme ? Parce qu'on dit, très souvent que les hommes ne se rendent compte vraiment de leur paternité qu'au moment où ils ont leur bébé dans les bras et pas pendant la grossesse. Est-ce que c'est une façon de renier un peu cette pensée un peu que tout le monde a, en fait ?
Non, parce que je crois encore une fois que c'est tout à fait vrai. Enfin, il y a toujours dans les généralités un côté un petit peu idiot, parce qu'il y aura toujours une exception qui confirmera la règle. Il y a des gens qui sont pères instinctivement, comme il y a des femmes qui sont mères instinctivement, et des pères qui ne sont pas pères du tout. Bon. Néanmoins, j'ai l'impression que pour un homme, même s'il voit le ventre de sa femme qui donc s'arrondit, même s'il peut sentir les coups de pied du bébé, même s'il voit l'image sur maintenant en plus les très belles échographies en trois dimensions, qui sont dangereuses, cela dit, paraît-il, eh bien, il ne prend conscience qu'il est père que quand le bébé est né, parce que ça reste un événement qui est en dehors de lui. Et dans la problématique de la fausse couche, donc la prise de conscience réelle vient d'une manière assez brutale et assez définitive quand l'enfant est là. Et là, c'est cette prise de conscience qui se fait, c'est-à-dire on comprend qu'on va être père, on prend conscience que l'on est père au moment où on comprend qu'on ne le sera pas. C'est une sorte de double peine qui tombe. Et c'est un événement assez particulier qui donc se passe là. Et précisément, comme cet événement reste, entre guillemets, un peu abstrait, il me semblait logique que la révolte de quelqu'un qui vit ça, parce qu'il peut ressentir un sentiment d'injustice, elle soit abstraite et donc elle flirte avec la métaphysique, donc le problème avec Dieu et tout ce genre de choses que l'on peut avoir avec ça.
Oui, parce que, en fait, dans votre roman, le narrateur... Bien entendu, on ressent sa douleur, mais c'est surtout, on a l'impression surtout qu'il veut être là pour sa femme, enfin qui sent que, enfin c'est ce que moi j'ai ressenti en tout cas, que en gros sa douleur on verra après, mais il y a une femme là qui vit vraiment ce moment en plus à l'intérieur d'elle, et voilà, il faut qu'il soit un peu fort pour les deux.
Donc, oui, puis c'est assez compliqué parce que encore, ça va être une sorte de cliché idiot, mais les hommes ont un côté bravache, ils aiment bien agir sur le monde. Mmh. Ils aiment bien pouvoir, par leur action, modifier les choses. Or, dans cet instant-là, ils ne peuvent rien faire. Il n'y a rien à faire. Ils ne peuvent pas agir sur ça, ils ne peuvent pas sauver, ils ne peuvent rien faire. La seule chose qu'ils peuvent effectivement tenter, c'est d'accompagner au mieux. C'est-à-dire être là, mais tout en sachant que quoi qu'il fasse, ça n'aura aucune incidence. Donc c'est un sentiment assez désagréable d'impuissance que l'on peut avoir à ce moment-là. Et donc il est là, mais à part être là, il ne peut pas faire grand-chose, mais c'est, au final, c'est quand même déjà pas mal. Mm-hmm. Alors après, bon, peut-être qu'il y en a qui prennent la fuite, qui prennent la tangente. Les hommes sont lâches, on le sait, c'est consubstantiel à leur personne. Je vous rassure, les femmes sont de mauvaise foi, c'est chacun son truc.
Il y a des petites réactions là quand même.
Ah, il faut bien. Non, mais attendez, les hommes sont égoïstes donc ils sont lâches, les femmes sont égocentriques donc elles sont de mauvaise foi. Pensez-y.
Oui, c'était la fête de la famille, hein,
oui,
effectivement.
Oui. Non, mais attendez, comment dire ? Les hommes ne sont pas irréprochables, mais les femmes non plus quand même.
On sera tous d'accord sur ce sujet.
J'ai eu peur un instant.
Mais en fait, on peut pas trop dire que ce personnage ne fait rien, parce que il emploie quand même beaucoup. Enfin, il essaye d'agir avec sa femme avec beaucoup d'humour. Enfin, beaucoup de plutôt peut-être pas d'humour, mais de comment dire, de dérision, en tout cas.
Ouais, et puis il essaye de ne pas plomber l'événement. L'événement est déjà assez plombé, assez plombant, assez mortifère et assez morbide. Donc il essaye de faire en sorte de banaliser l'événement pour ne pas en rajouter. Parce que ça peut... si lui ne réussit pas à être fort et si lui s'effondre, tout le monde s'effondre. Et tout le monde pleure. Et généralement, il vaut mieux essayer d'être fort pour pouvoir tenir ce genre de. Pour pouvoir faire face à ce type de situation.
D'accord. Est-ce qu'on pourrait dire, dans ce cas, que s'il y avait une petite morale, en fait, à sortir de votre livre, c'est que.
C'est que Dieu sauf au Pays Basque.
C'est que Dieu sauf au Pays Basque, déjà. mais aussi que, même s'il arrive des choses graves, tout finit par s'arranger, en fait. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu
Non, ce serait un peu trop simple. Non, mais tout finit par s'arranger, certes, mais tout finit par s'arranger comment et pourquoi, surtout. Mm-hmm. Et si le récit alterne précisément le moment douloureux d'une naissance qui ne va pas à terme et les moments heureux d'un amour qui naît, ce sont deux naissances différentes, une qui échoue et l'autre qui réussit. Et si ces deux temporalités sont mises l'une en face de l'autre, c'est que quand on est confronté à ce type d'événement, on ne pense pas aux instants heureux qu'on a pu vivre autrefois. On est dans... on affronte les événements un à un quand ils nous tombent dessus, et on est plus ou moins sonné, on se relève, on continue, on en prend un autre sur la tête, etc. Et précisément, la seule manière de s'en sortir, c'est qu'après... toute l'intimité est entachée de quelque chose qui sent la mort. On est quand même entaché par un mort, précisément. Et tout l'enjeu, c'est de réussir à renouer avec la légèreté du début pour s'en sortir. C'est ça, en fait. C'est que peut-être, et comme dans beaucoup de cas, la solution à un problème présent est dans les origines. Et il faut aller la chercher. Et là, il faut aller dans une origine heureuse pour pouvoir redépasser cela et dédramatiser tout ça, pour revenir à une certaine insouciance et une certaine légèreté. Je crois que la clé est toujours là.
D'accord. Alors, j'aimerais revenir un petit peu sur le tout début du roman, qui s'ouvre en fait sur le souvenir d'un cauchemar, mais qui ensuite est un peu... qui se poursuit après, par quelques pages après, par une citation d'Oscar Wilde, que moi, personnellement, j'adore, c'est « Il ne faut pas avoir des signes partout, cela rend la vie absolument impossible. » Mais est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal avec la première phrase que vous utilisez dans le roman, qui est « Samedi matin, je me suis réveillé en sursaut, un mauvais rêve, ma femme me disait « le bébé est mort ».
Mais oui, mais j'aurais mieux fait, lapsus révélateur. comment dire ? Il eût mieux valu qu'il ne voit pas de mauvais signes là-dedans. Peut-être qu'il serait resté beaucoup plus calme. Mais en tous les cas, par rapport à cette phrase de Wilde, moi, j'ai une très, très bonne amie. C'est l'enfer. Quoi qu'elle fasse, elle se tire les cartes, elle regarde son thème astral. Et non, je ne peux pas faire ça, etc. Enfin, c'est pas possible au bout d'un moment. On ne peut pas vivre en essayant de tout surinterpréter. On perd... et moi, j'aime à penser quand même globalement... Alors après, il peut y avoir... on peut croire dans tout un tas de choses, les anges, le destin, etc. Mais moi, je reste un indécrottable 18e. Je crois que l'homme est libre et que peut-être, effectivement, ce genre de choses, quand on se tire les cartes, ça peut être un peu comme les sondages en politique. À un instant T, les lignes de force montrent une probabilité. Le plus probable qu'il advienne sera ceci. Après, on peut toujours quand même faire mentir le destin.
D'accord. Voilà. C'est joli.
Mais c'est vrai que ça rend la vie insupportable. Si vous commencez à voir des signes partout, ça rend la vie insupportable.
Mais en fait, alors il y a un autre sujet un petit peu qui est abordé un petit peu aux surfaces. C'est un petit peu comment les autres réagissent. Ne réagissent pas d'ailleurs parce qu'ils ne sont pas au courant. Mais quand le personnage doit annuler la chambre qui va servir à sa femme à coucher et que on est face à la réalité administrative où il faut faire la queue, alors que la seule chose qu'il aimerait, c'est rentrer chez lui. Et comment, est-ce que vous avez voulu faire apparaître une sorte de décalage entre le système et ce qui se passe réellement dans la vie ?
Oui, parce que les hôpitaux sont un lieu extraordinairement particulier. C'est un lieu où, en même temps, les gens naissent, en même temps, les gens meurent. On a les deux extrémités de la vie qui sont là. Et effectivement, quand on passe à travers un drame, il y a quand même un moment où il faut aller annuler une chambre parce qu'il faut libérer pour une autre femme qui aura besoin, effectivement, de venir accoucher. Et on est pris dans une espèce de machine kafkaïenne parce qu'on sort de quelque chose d'absolument atroce et on est dans un truc qui a sa propre logique et qui n'a rien à faire de ce que l'être humain peut donc ressentir. Mais ça, c'est une problématique qui est beaucoup plus large. C'est aussi comment est-ce qu'on gère comment est-ce qu'on forme les médecins, le personnel hospitalier, comment est-ce qu'on révèle une vérité médicale, quels mots est-ce qu'il faut employés. Et peut-être d'ailleurs qu'un grand nombre de jeunes médecins aujourd'hui, ce qui les différencie de leurs très très grands aînés, c'est qu'ils n'ont pas fait latin grec et ni les humanités. Ils sont très bons techniquement, mais ils n'ont pas nécessairement une vraie connaissance de l'âme humaine pour pouvoir gérer ce genre de situation.
Mmh. D'accord. Mmh. Alors, moi j'ai un petit problème.
Ah, enfin. Dites-moi.
Alors, c'est la libraire qui parle. C'est-à-dire que on a souvent des gens qui viennent nous voir et qui nous demandent qu'on leur conseille des livres gays ou des livres avec une réflexion derrière. Comment vous caractérisiez votre roman, puisque on peut pas dire qu'il soit triste parce qu'il y a beaucoup d'espoir.
Question piège, mon Dieu.
Mais on est là pour ça.
Mon Dieu. Alors celle-là, elle est pas mal. J'avais jamais rien pensé.
Et en même temps, il est plein de dérision sans être vraiment très gay. Alors, si quelqu'un devait vous demander pour qui vous donneriez ce livre, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Je lui dirais que c'est un livre en clair-obscur, comme la vie. Je ne vois pas d'autre chose à dire de plus intelligent ni de plus banal en même temps, si vous voulez. Non, mais en tous les cas, oui. Comment dire ? En tout cas, qu'il ne faut pas avoir peur parce que ce n'est pas un livre sinistre, en tous les cas.
Oui, tout à fait.
Voilà. Il y a quand même quelques bulles d'air où on rigole pas mal.
Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça.
C'est fait pour, hein, parce qu'au bout d'un moment, je pense que c'est insoutenable et on a besoin de sortir de ça pour pouvoir respirer.
Oui, heureusement d'ailleurs.
Oui.
Alors, une autre question qui va peut-être vous paraître difficile aussi.
Allez.
Je continue pendant que je suis dans ma lancée. Hein.
Allez-y.
Donc. Là où je dis qu'il y a plein d'espoir, c'est que la situation ne s'arrange pas parce que bien entendu le bébé ne va pas renaître, mais le couple finit par tourner la page entre guillemets et donc à fêter une nouvelle naissance. Mm-hmm. Mais vous survolez vraiment ce passage sans parler de l'inquiétude qu'ils pourraient ressentir par rapport à ce qu'ils ont déjà vécu. Enfin, c'était. Pourquoi ne pas avoir développé cette naissance qui, en fin de compte, aboutit vraiment à leur désir d'être parent ?
Parce qu'à mon avis, il y a effectivement les mêmes inquiétudes qui vont se poser à ce moment-là, puisqu'il y a la peur que le destin s'acharne et que ça se reproduise. Et je crois que d'un point de vue romanesque, ça aurait été redondant. Je n'avais pas envie d'écrire deux fois la même chose, même si c'était sur deux événements très différents. Et que justement, que cette reconstruction qui se fait par le fait de retrouver une certaine légèreté, voire un certain oubli, exiger que l'on passe d'une manière elliptique dessus.
D'accord.
Et ça me semblait faire sens avec le sujet, en tous les cas.
Je crois que vous finissez toujours en disant que de toute façon, le personnage va finir par s'inquiéter pour sa fille, les premiers baisers, les premiers
pleurs. Ben oui, parce qu'après, les vrais problèmes commencent. Ils sont nés, les casseroles, le gaz, et puis après ils sortent, le scooter, la drogue, les cuites, etc. Enfin, on se fera du mauvais sang jusqu'au bout.
Tout à fait.
Mais on se fera du mauvais sang pour quelqu'un qui vit. C'est quand même plus intéressant que se faire du mauvais sang pour quelqu'un qui n'a pas vécu.
Oui, tout à fait. Alors, une question un peu drôle. Est-ce que vous pouvez nous parler plus du canard bouillotte ?
Ah, le canard bouillotte, le duck. Pour ceux qui sont sur Facebook, il existe vraiment, il a un profil et il a vraiment des amis dans le monde entier. C'est un petit canard bouillotte qui, effectivement, que le narrateur veut offrir à sa femme parce qu'il a toujours trouvé que sa femme avait des petits airs d'oiseaux tombés du nid. Et comme donc elle subit cette intervention chirurgicale qui se passe dans le ventre, il voudrait qu'elle puisse se mettre une bouillotte sur le ventre pour pouvoir faire passer cette douleur-là après. Et une amie du narrateur trouve, l'a trouvé et la peluche que le narrateur demandait et la bouillotte, mais en une seule personne. Et justement, quand le narrateur et sa femme se rencontrent, ils ont beau avoir 30 ans, ils sont aussi amoureux et donc bêtes que lorsqu'ils ont 15 ans. Et ce duck devient, cette peluche devient une sorte d'objet transitionnel. Et comme il lui invente une vie, il lui invente des sorties, ils le font conduire. Enfin, en tout cas, le narrateur, en voiture, s'assoit derrière. C'est lui qui monte devant. Hein. C'est très important. Et donc, comme ils redeviennent absolument idiots, comme des enfants avec cette peluche-là, c'est comme ça que grâce à lui, quelque part, ils retrouvent la légèreté qu'ils avaient quand ils se sont rencontrés, en redevenant bêtes et donc amoureux.
D'accord. Et vous, est-ce que vous avez encore 15 ans ?
Salut Yves.
Bonjour Yves.
Non, c'est parce qu'il se passe un phénomène exceptionnel quand même. J'ai deux de mes professeurs de Tivoli qui sont là. Mon gigantesque professeur de français, M. Rabot, qui est là. Et le professeur que j'ai sans doute le plus embêté pendant ma scolarité, qui m'a détesté, mon professeur de physique, Yves Lacroix. Non, mais j'étais tellement embêté. C'était quelque chose. Quelle était la question ? Si j'ai toujours 15 ans ?
Est-ce que vous avez encore 15 ans ?
Alors, d'après Héloïse d'Ormesson, j'ai même moins que 15 ans. Je dois être à peu près 8 ans.
D'accord.
J'ai à peu près un âge mental très réduit. Oui, la connerie n'est jamais très loin, me concernant. Ça, c'est certain.
Alors, et là, parlons un petit peu de quelqu'un de très, très sérieux, Victor Hugo.
Oui.
Alors, vous... Non, c'est parce que...
C'est difficile. Victor Hugo, vous êtes sûr que vous voulez qu'on commence sur Victor Hugo pendant 3 heures ?
Non, mais juste que vous nous disiez un petit peu pourquoi avoir tant cité les contemplations de Victor Hugo ? Est-ce que le roman est parti de là, d'ailleurs, ou est-ce qu'il est venu un petit peu illustrer le livre ?
Non, en fait, c'est l'idée du livre qui m'a rappelé ce poème que je connaissais, Le Revenant, donc, et... Oh, salut, jeune homme ! Comment ça va ? Mais regardez, c'est la vie qui rentre quand même par la grande porte, c'est merveilleux. Et puis c'est le Victor Hugo des contemplations, c'est le Victor Hugo du deuil, c'est le Victor Hugo de Léopoldine, évidemment. Et le fait, ça inscrivait dans une certaine tradition littéraire qui était de comment est-ce qu'on transforme un événement malheureux, triste, en... J'aime pas trop le mot, mais en œuvre, en quelque chose d'autre, en quelque chose qui peut être beau, précisément.
D'accord. Et en parlant un peu plus de vous, de votre statut d'auteur, donc là, vous en êtes, comme je disais, à votre 4e roman, ce qui confirme un petit peu le... Enfin, voilà, vous n'êtes pas là par hasard.
Ah non, je lutte. Hein.
Vous luttez encore hein.
Ah oui, bien sûr.
Oui, c'est vrai.
Bah écoutez, si jamais on se croit arrivé, on écrira un mauvais livre. Il y a quand même un moment, il faut, à chaque nouveau roman, on est devant la page, il faut jamais... Je crois que la pire chose qui pourrait arriver, c'est si je commençais à me prendre pour Harold Cobert. Ce serait très grave. Vous voyez, il ne faut surtout pas se prendre pour soi.
Alors, on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai que Harold Cobert, donc c'était un pseudonyme.
Mais non. Attendez. J'ai mon passeport.
Non, mais je vous crois.
J'ai un passeport. Je crois que Cobert, c'est le nom de mon père qui est là. Et Harold, c'est le prénom qu'ils ont choisi parce que je crois que ma mère était fan de Harold et Maude.
Oui.
Et notamment, sans doute, à cause de la bande originale qui est Cat Stevens pour le film. Et non, je me suis appelé Harold comme ça. Et ça m'a peut-être, d'où peut-être mon affection pour l'humour anglais, l'humour grinçant, l'humour décalé. Jusqu'à quel point est-ce que les prénoms peuvent influer et influencer la personnalité de quelqu'un. Alors, ne voyons pas des signes partout, mais peut-être.
D'accord. Donc là, j'imagine quand même que la période est quand même à la fois très enthousiasmante pour vous et aussi très difficile parce que bah, voilà, vous êtes ici. Comment ça se passe en fait ? Là, vous êtes sur plusieurs salons. Comment vous le gérez en fait ?
Alors écoutez, de vous à moi, j'ai connu des moments beaucoup plus agréables que d'être avec vous chez Mola ici, que d'avoir fait ce que j'ai fait pendant... Demain, ça fera 3 jours, où donc j'ai rencontré plein de personnes autour de ce livre-là. Il y a quand même plus désagréable que de rencontrer des personnes qui ont envie de parler avec vous du livre que vous avez fait. Et pour tout vous avouer, la période la plus pénible, ça a été plutôt 3 semaines avant. C'est quand on est prêt, que tout est prêt, que le livre est là, qu'on a fait le service de presse et qu'on attend le retour des libraires, des blogueurs, des journalistes, pour savoir si ça va intéresser quelqu'un ou pas. Et là, c'est un moment où on est très fragile. En revanche, là, on passe dans un moment où on est dans l'action. On sort du moment où on était tout seul chez soi à écrire dans sa chambre, à être très habité, à avoir l'impression que c'était formidable. Et après, une fois qu'on a fini le livre et dans ces 3 semaines qui précèdent la sortie, on a l'impression que c'est nul, que ça n'intéressera personne, etc. Et quand on sent un frémissement, comme il semblerait qu'un frémissement arrive en ce moment... Écoutez, c'est jouissif, quelque part. Et moi, j'aime beaucoup aller en salon du livre, etc., parce que d'abord, il y a un côté colonie de vacances que vous n'imaginez même pas. On rencontre tous les autres écrivains. En plus, nous, chez Héloïse d'Ormesson, on est extraordinairement choyés. On a Héloïse d'Ormesson elle-même et son compagnon Gilles Cohen-Sorel, qui est un personnage très haut en couleur, qui ils viennent avec nous. On est un peu une sorte de gang. On est le gang Héloïse d'Ormesson. Tout le monde veut venir dîner avec nous parce qu'on boit du champagne jusqu'à absolument plus soif. On sort en boîte de nuit et on est absolument idiot. Et surtout, et ça, c'est, il y a deux choses. D'abord, il y a une grande leçon d'humilité parce que n'étant ni Marc Lévy ni Amélie Nothomb, les gens passent devant vous un peu comme on passe au salon de l'agriculture devant les vaches. Ils vous regardent, ils prennent le livre et puis ils passent.
Ouais.
Mais en revanche, il y a certaines rencontres qui se font, les gens viennent, vous discutez avec eux, ils le prennent pas, c'est pas grave. Et je trouve ça plutôt bien que ça, c'est un truc qui est dans l'air du temps, en fait. Les musiciens et les chanteurs ont été obligés de se remettre à faire des concerts live et plus simplement de vendre leurs CD. Et nous, ben, il faut aussi qu'on aille sur la route, quoi. Mmh. Et il y a un côté Molière, quelque part, de partir comme ça sur la route et de jouer au grand camelot. Et moi, je trouve ça plutôt sympa.
D'accord.
En tout cas, moi, j'aime ça.
Vous avez encore un peu de temps pour le surf, quand même ?
Hélas, non, parce que à Paris, j'aurais bien aimé que Paris soit comme Los Angeles, que je puisse aller surfer entre midi et deux. Mais dès que les beaux jours arrivent ou que les beaux jours se prolongent, en tout cas ici en automne, dès que je peux partir, je pars.
D'accord.
Et je viens ici. Ou au Pays Basque. Ça dépend.
Alors, et la suite, c'est quoi maintenant ? Enfin, quand ce sera calmé, en tout cas.
Surfer cet été, si possible. non, la suite, mais cet ouvrage-là, c'est le premier volet d'un triptyque, non pas une trilogie, j'insiste, c'est très important parce qu'une trilogie, ce sont des personnages récurrents qui vont donc revenir, ça n'est pas du tout le cas, mais d'un triptyque qui va être consacré au rendez-vous manqué. Là, c'est la paternité manquée, après on prendra le sens inverse qui est la filiation manquée, qui sera un roman beaucoup plus volumineux sur trois générations de pères et de fils qui se ratent en permanence. Et enfin, il y en aura un dernier. Enfin, le prochain est signé, il est prêt, etc.
Ah, déjà.
L'autre a été rendu, Héloïse d'Ormesson est en train de le lire, donc je tremble en même temps. et lui, en revanche, c'est un autre rendez-vous manqué. C'est un rendez-vous, c'est le rendez-vous manqué, c'est l'amour que l'on rate. Et c'est un amour que l'on rate souvent quand on est adolescent entre 14, 17, 18 ans, en gros. Et c'est cet amour qu'on rate pour X raisons, parce que c'est pas le moment, ou parce que les sentiments que l'on vit sont trop grands pour les personnes que l'on est à cet instant-là. Et on se rate, et pendant toute sa vie, on est hanté par le spectre de cela en se disant « et si ?»
Donc vous restez quand même sur un thème oui, familial et amoureux.
Oui, puis ce sont trois livres qui se dérouleront dans ma propre géographie intime entre Paris, le Pays Basque, Bordeaux. Et après, en revanche, les trois d'après, parce que je les ai en tête, mais ils me demandent beaucoup de travail, il y en a un, je serai l'ennemi public numéro un, mais ça ne m'effraie pas.
Pourquoi l'ennemi ?
Parce que c'est un sujet atroce. Là, on va commencer à rentrer dans des zones difficiles.
D'accord.
Je vais m'emparer d'un sujet qui est un fait divers et à mon avis, ça va être assez délicat.
Oh, c'est un risque à prendre. Enfin, je dirais,
oui, c'est un risque à prendre. Puis, moi, ça m'excite beaucoup de me mettre dans la peau de quelqu'un qui est un monstre et ça va me demander d'abolir toutes les barrières morales qui sont les miennes et essayer d'endosser sa vision du monde, c'est-à-dire pour n'être ni à charge ni à décharge, ce qui est un équilibre, à mon avis, qui est très difficile à pouvoir trouver. Puis après, il y en aura d'autres qui sont prévus.
D'accord.
J'espère vivre assez longtemps. Il va falloir que j'arrête de fumer, d'ailleurs, pour ça.
Bon courage.
Merci. En tout cas, merci d'être venu.
Merci à vous. Oui.